Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'info tous ensemble. Ce soir à la une, la fin du faux suspense. Éric Zemmour est bien candidat à la présidentielle. Le polémiste l'a officialisé dans une vidéo à la mi-journée. Vidéo au ton dramatique avec images d'archives, de clochers, de violences. L'extrême droite attaque donc la campagne divisée. Le Rassemblement National est bien embarrassé. L'invité de 18h15 sera Gilbert Collard, eurodéputé du RN. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une cérémonie en musique, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, tapis rouge et public nombreux. Cérémonie que l'on suivra en fil rouge dans RTL Soir. Dans ce journal aussi, la situation sanitaire qui s'aggrave en France et la porte ouverte à la vaccination des enfants. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les 5-11 ans les plus à risque. Et puis les menaces d'action en justice de la famille Gucci, très mécontente du dernier film de Ridley Scott avec Lady Gaga. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 10, le 6, le 9, le 11 et le 2.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger pourquoi les carottes et les pommes nous coûtent de plus en plus cher au supermarché alors même que leur prix baisse à Rungis. Après 18h30, laissez-vous tenter dernière avec Ghostbusters SOS Fantôme de retour au cinéma. 18h40, on défait le monde. 20 minutes de découverte avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Ce soir, on rembobine l'actu. On vous plonge dans le meilleur et le pire des déclarations de candidature à la présidentielle. Au menu également, Miss France 2020 poursuivie par une sorte de malédiction. Et vous allez découvrir une histoire d'amour à la maison de retraite qui devrait vous réchauffer le cœur en ces temps troublés.
Ça, c'est formidable. 19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, refaire notamment la candidature Zemmour et puis des points réguliers tout au long de l'émission sur la météo avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance ?
Demain, moins froid mais pluvieux sur tout le pays.
On détaille tout ça dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Une sixième femme chez les grands hommes, Joséphine Baker, entre ce soir au Panthéon.
La cérémonie a débuté il y a une demi-heure dans le 5e arrondissement de Paris. Vous la suivez pour RTL, Sophie Orange, bonsoir.
Bonsoir.
Avec un cortège qui vient de remonter la rue Soufflot et qui s'approche des portes du Panthéon.
Ce cercueil vide qui vient à l'instant de passer devant moi. Cercueil vide, oui, parce que la famille, ses enfants ont souhaité que la dépouille de Joséphine Baker reste à Monaco. Ce cénotaphe porté par l'armée de l'air, elle a été sous-officier pendant la guerre et c'est une aviatrice qui porte après le cercueil un coussin rouge sur lequel sont placées ses 5 décorations. Une remontée très émouvante de la rue Soufflot sous un public nombreux qui a commencé d'abord au son de l'une de ses chansons les plus connues.
Me revoilà Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris.
Beaucoup entendu depuis quelques jours, mais qui ici, forcément, dans cette rue Soufflot, devant les Panthéons, prend une résonance très particulière. Sa vie a été résumée en 4 tableaux. Chanteuse, actrice avec Jean Gabin, résistante, espionne, mère de famille arc-en-ciel. Dans quelques instants, les portes du Panthéon vont s'ouvrir. Ils ne s'ouvrent que pour ce moment-là, pour l'entrée des grands hommes et des grandes femmes. Joséphine Baker qui occupera le caveau numéro 13 aux côtés de Maurice Genevoix. 2000 invités, tous masqués, assistent à cette cérémonie avant le discours du président de la République dans quelques instants.
Sophie Orange en direct du Panthéon pour RTL, un discours sur lequel on reviendra et que vous suivez avec nous ce soir.
Effectivement, c'est le fil rouge de RTL Soir. Pour l'heure, il est 18h04. Il était prêt à faire durer le suspense tant que c'était son intérêt. C'était l'une des petites phrases d'Éric Zemmour ces dernières semaines. Visiblement, ce temps-là est passé. Fin de l'ambiguïté et le polémiste est désormais officiellement candidat à la présidentielle.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
Une annonce faite par le biais d'une vidéo. Marie Mollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vidéo à la forme pour le moins inhabituelle.
Oui, une bibliothèque, une table, un micro énorme et derrière Éric Zemmour, l'air grave, qui lit son discours rivé sur ses feuilles. La scène est un pastiche de la photo de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Septième symphonie de Beethoven à plein volume, des images apparaissent en flash à l'écran, violences urbaines, deals, tirs de mortier, pendant qu'Éric Zemmour décrit l'apocalypse et ce qu'il appelle le grand remplacement.
Vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur.
Éric Zemmour chante aussi les vertus d'une France éternelle et rêvée, image sépia du Paris des années 60.
Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit ? Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. De Gaulle et de Jean Moulin. Le Brigitte Bardot et de Belmondo.
Avant de justifier sa mue du polémiste au prétendant à l'Élysée, en fustigeant les impuissants, dit-il, de la classe politique.
Je me disais... À chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main.
Une déclaration qui se veut épique pour poursuivre le récit de l'épopée électorale.
Alors maintenant, Marie, les choses sérieuses vont commencer pour Éric Zemmour.
Oui, car il a devant lui des obstacles à surmonter. La quête des 500 parrainages, un chemin de croix pour bien des candidats. Se bâtir une stature de présidentiable, hein, le doigt d'honneur à Marseille ne l'y a pas aidé. Présenter un organigramme qui tient la route, c'est la critique que l'on entend en interne. Qui fait quoi ? Y a-t-il quelqu'un avec de la bouteille de plus de 35 ans s'agace sans soutien, mais aussi engranger des ralliements. Pour l'instant, aucun poids lourd n'a pris son risque. Enfin, décliner un programme qui plaît aux classes populaires sans effrayer la droite traditionnelle, le chemin est étroit.
Décryptage de Marie Mollet. On reviendra sur cette division désormais officielle de l'extrême droite alors que la campagne présidentielle est en cours avec Gilbert Collard, l'eurodéputé du Rassemblement National, qui sera notre invité dans quelques minutes.
Et parmi les autres réactions politiques suite à cette annonce, la haine est son métier. A tweeté le candidat communiste Fabien Roussel. Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, a fustigé des promesses rabougries. Dans RTL Midi, le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu, a lui pointé des constats sans proposition. Chez les Républicains, pendant ce temps, on prépare le dernier débat et le vote. Ouverture du scrutin demain matin, désignation du candidat à l'Élysée samedi.
RTL, 18h07, c'est un nouveau message d'alerte et il a été lancé, écoutez bien, cet après-midi par le ministre de la Santé à l'Assemblée.
Nous déplorons 47 000 contaminations au cours des 24 dernières heures, ce qui continue de marquer une augmentation de la diffusion du virus sur le territoire national, avec une moyenne du nombre de contaminations par jour qui dépasse les 30 000 et qui pourrait être, si l'on suivait cette dynamique de plus 60% par semaine, supérieure au pic de la troisième vague d'ici à la fin de la semaine.
Plus 60% par semaine, une dégradation de la situation sanitaire qui met les enfants en première ligne. La tranche des 6-11 ans qui n'est pas aujourd'hui ciblée par la vaccination affiche le taux d'incidence le plus élevé, mais les lignes pourraient bouger.
Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
La Haute Autorité de Santé a recommandé aujourd'hui l'autorisation des injections dès 5 ans, mais dans un premier temps pour les enfants à risque. Ça va concerner qui précisément ?
Alors environ 360 000 enfants de 5 à 11 ans, cela ne représente que 6% de cette tranche d'âge. Des enfants qui souffrent de maladies qui les rendent plus à risque de formes graves du Covid, le diabète, l'obésité, la trisomie 21 et toute une liste de pathologies cardiaques, hépatiques ou respiratoires, notamment l'asthme sévère. La Haute Autorité de Santé recommande aussi de vacciner les enfants dans l'entourage des adultes immunodéprimés, ceux sous chimiothérapie, atteints du sida ou de certains cancers. Enfin, la HAS valide aussi la vaccination des enfants proches d'adultes à risque non vaccinés. On attend désormais la position du gouvernement qui choisira de suivre ou non ces recommandations. Pour le moment, on n'a de toute façon pas encore reçu les vaccins Pfizer adaptés pour les enfants. 2 millions de doses vont nous être livrées dans 3 semaines.
Les explications d'Agathe Landais pour RTL. La vaccination sur laquelle le ton se durcit en Europe. Le futur chancelier allemand Olaf Scholz dit favorable au vaccin obligatoire et il demande d'ailleurs au Parlement de se prononcer sur cette question d'ici la fin de l'année. En Grèce, là, ce sont les plus de 60 ans qui n'auront plus le choix. Vaccination obligatoire à partir du 16 janvier. Les réfractaires devront payer une amende mensuelle de 100 euros.
Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec les accusations d'un homme qui assure avoir survécu au terrible naufrage de la semaine dernière dans la Manche. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, minutes. Vous écoutez RTL, voici la suite de votre journal. Près d'une semaine après le naufrage d'un bateau qui a fait 27 morts dans la Manche. Cette question, est-ce que les secours français et britanniques aurait pu intervenir pour sauver ses exilés?
Question qui se pose après le témoignage d'un homme sur une chaîne de télé kurde se présentant comme l'un des deux rescapés du drame. Il raconte le déroulement de ces heures tragiques et dénonce aussi des faits de non-assistance à personne en danger, Vincent Serrano.
Oui, puisqu'au moment où le flanc droit du bateau commence à se dégonfler, il explique que plusieurs hommes commencent à pomper l'eau qui s'infiltre à l'écuvée sans succès et que deux passagers décident alors d'appeler au secours chacun de leur côté, la police française et la police britannique. Et pour lui, c'est clair, les deux pays décident de ne pas venir les secourir, se renvoyant la balle des accusations que défend formellement le commandant Lavaux, le porte-parole de la Marine nationale.
C'est important de souligner, il y avait deux hélicoptères, un français et un britannique. Ça illustre bien le fait que la coordination entre les services de secours et de sauvetage en mer des deux pays, britannique et français, la coopération est totale. Donc il n'y a pas de sujet Brexit dans cette affaire. En toutes circonstances, on a pour mission de porter secours aux gens en difficulté en mer.
L'enquête en tout cas se poursuit. Les deux rescapés peuvent de nouveau être entendus si besoin par les enquêteurs. Seule certitude, les opérations de sauvetage ont bien eu lieu côté français.
Vincent Serrano, merci. Et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'État prendrait à sa charge l'inhumation des 27 personnes mortes dans le naufrage dans les communes qui acceptent d'accueillir les défunts. À l'affiche et peut-être bientôt au tribunal, le dernier film de Ridley Scott, House of Gucci, avec Lady Gaga notamment menacée désormais d'une action en justice par la famille de la célèbre maison de couture.
Oui, la famille Gucci qui qualifie ce film sur l'assassinat de l'héritier de la marque par son ex-épouse, film de caricatural. À Rome, les précisions pour RTL d'Olivier Bonnel.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film passe très mal auprès des héritiers d'Aldo Gucci. Les membres de la famille Gucci sont décrits comme des hooligans, ignorants et insensibles au monde qui les entoure, déplore la famille dans une lettre transmise à l'agence de presse italienne ANSA. Les descendants du fondateur de la maison de luxe déplorent que la production américaine n'ait pas pris la peine de les consulter. Ils critiquent en particulier le personnage de Patrizia Reggiani, jouée par Lady Gaga, présentée comme une victime alors qu'elle fut accusée en 1995 du meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci, alors patron de la célèbre marque. En mars dernier, Patrizia Reggiani elle-même, libérée de prison en 2017, avait exprimé son mécontentement de ne pas avoir été contactée par Lady Gaga avant que celle-ci n'accepte le rôle. Prête à porter plainte, la famille Gucci dénonce encore la lettre, vit en honorant le travail de ses ancêtres, dont la mémoire ne mérite pas d'être dérangée pour mettre en scène un spectacle qui est faux.
Olivier Bonnel à Rome pour RTL.
Après son ballon d'or, Lionel Messi fait l'impasse sur le match du PSG demain en championnat contre Nice, l'attaquant argentin souffrirait de symptômes de gastro-entérite.
Ah là là, le problème c'est que personne ne portait un masque hier soir à la cérémonie du Ballon d'Or.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour une famille au sein de laquelle la gastronomie apparemment c'est dans les gènes, dans la famille Rollinger. Après Olivier, voici Hugo, ancien officier de la marine marsande, désormais cuisinier de l'année. Il a été désigné ces dernières heures par le Goemio après déjà une deuxième étoile en 2019 pour son restaurant près de Cancale baptisé Coquillage.
Vive la Bretagne. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure sur RTL. Le temps maintenant. Peggy, dites-nous tout.
Pas de jaloux demain. Un bon arrosage pour tout le monde. Comme ça, oh voilà. Eh ben oui, une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est. Elle sera bien pluvieuse et venteuse. Alors le matin, les pluies les plus marquées seront entre le sud-ouest et le nord-est. Attention aux pluies verglaçantes possibles vers le massif central. Et puis à l'arrière, donc surtout le nord-ouest, une traîne mais active, donc entre nuages, éclaircies, averses. Le sud-est sera à l'écart avec encore un ciel lumineux, mais ça ne va pas durer puisque dans l'après-midi, la perturbation va progresser vers l'est. On la retrouvera essentiellement entre le Languedoc-Roussillon et la façade est, et un ciel de traîne sur tout le reste du pays avec une limite pluie neige en hausse à partir de 1200 mètres, tout ça sous des températures en légère hausse. Il y a moins de gelée demain, ça c'est la bonne nouvelle. Et les maximales de 5 à 8 de la région Rhône-Alpes au nord-est, de 9 à 13 ailleurs, jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, nous allons nous interroger. Vous le savez, tous les mois, nous remplissons le panier RTL. 13 produits du quotidien achetés dans 4 hypermarchés français. Et ce mois-ci, bah les prix grimpent. 30 centimes de plus en bas du ticket de caisse avec quelques mauvaises surprises. Plus 50 centimes pour le kilo de pommes, plus 10 centimes pour le kilo de carottes. On va donc poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Pommes et carottes, de plus en plus chères en rayon, on l'a dit. Et pourtant, dans le même temps à Rungis, le cours de ces fruits et légumes est stable, voire en baisse. C'est très paradoxal, non ?
Oui, d'autant plus qu'on ne manque absolument pas de carottes dans notre pays, bien au contraire. Carottes de France, une association de producteurs, m'indiquait que les prix de vente sont assez bas en ce moment, que les stocks sont importants, mais que la demande manque de dynamisme. Et pour certains producteurs, aucun doute, ce sont bien les hypermarchés qui font plus de marge sur ces carottes vendues plus chères qu'il y a un mois.
Mais comment les grandes surfaces, vous le dites, qui font plus de marge, se justifient ?
Eh bien, certaines se défendent et expliquent que ce n'est pas le cas dans tous les hypermarchés en France. D'autres acteurs du secteur répondent que les coûts logistiques jouent également sur le prix de vente finale. Ils avancent que les coûts de transport ont augmenté le mois dernier, notamment à cause du prix de l'essence.
En un mot, restons sur cet exemple, ça va s'arrêter cette flambée des carottes hein ?
Eh bien, pas si sûr, Julien, car jusqu'en décembre, vous trouverez dans vos rayons des carottes de saison. Et en janvier, ce seront plutôt des carottes dites de conservation. Ce sont les mêmes visuellement, simplement elles sont parfois conservées dans des frigos ou en terre. Et cela réclame plus de manipulation et donc des coûts supplémentaires. Reste à savoir si la grande distribution répercutera ces coûts sur le prix en magasin. Nous vérifierons ça fin janvier avec notre panier RTL, soyez-en certains.
Effectivement, on en est certains. Merci beaucoup Arnaud et Moralité. Donc mangeons des fruits et légumes de saison. Les explications de la Brigade RTL. Merci beaucoup Arnaud Touche.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
Allez, une petite pause et ensuite RTL Soir continue. On va revenir sur la candidature désormais officielle d'Éric Zemmour. L'extrême droite est donc divisée. Gilbert Collard relance un appel à l'union avec Marine Le Pen. L'eurodéputé du Rassemblement National sera notre invité juste après ça. Tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, vous écoutez RTL. Et donc, le faux suspense, on y revient, a pris fin il y a un peu plus de 6 heures maintenant. Comme prévu, Éric Zemmour est candidat à la présidentielle. Le polémiste l'a annoncé dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Vidéo au ton dramatique d'ailleurs, avec des images de manifestations, d'églises, des extraits de films de Delon ou Belmondo, ou encore des archives du général de Gaulle. Bonsoir Gilbert Collard.
Oui, bonsoir.
Vous êtes député européen du Rassemblement National. Rassemblement National très critique hein, d'ailleurs envers Éric Zemmour depuis la mi-journée. Vous regrettez cette dispersion des voix dans votre camp ? Est-ce que en clair vous appelez ce soir Éric Zemmour à faire marche arrière et à rejoindre Marine Le Pen ?
Bon, je pense que à un moment donné, en fonction de l'évolution de la situation politique, le discours patriotique indiscutable d'Éric Zemmour ne pourra, en fonction de la situation bien sûr, que l'amener à rejoindre Marine Le Pen. D'où l'utilité, la nécessité, dans un sens comme dans l'autre, de ne pas briser le pont sur lequel il faudra que l'un ou l'autre passe. C'est l'intérêt de celles et ceux qui considèrent que le régime actuellement en place est complètement délétère. Donc je suis, oui, je reste persuadé, même si je suis un peu à contre-courant, que la nécessité de maintenir des liens, des proximités et d'éviter surtout les insultes irréparables, car il n'y a rien de pire dans l'histoire politique que les blessures narcissiques, nous le savons bien. Voilà.
Alors vous parlez de blessures, sur la forme, effectivement le Rassemblement National a été très critique sur cette déclaration de candidature, cette vidéo d'une dizaine de minutes, Marine Le Pen a trouvé ce clip passéiste et crépusculaire, son porte-parole Sébastien Chenu va même plus loin, j'ai eu envie de me mettre la corde au cou, disait-il à la mi-journée sur RTL. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce clip ?
Bon, d'abord, ça serait dramatique que Sébastien Chenu se pende pour une vidéo. Zemmour parle du suicide français, pas du suicide de Sébastien Chenu. Je l'ai trouvé effectivement lugubre, crépusculaire, comme le dit Marine, mais parce que la situation de la France est lugubre et crépusculaire. On ne peut pas dire que le paysage français est rayonnant quand on voit les policiers attaqués, quand on voit qu'on met aux enchères les coups, les violences qu'on pourrait porter à des policiers, quand on voit la drogue partout, quand on voit les violences, quand on voit la sécurité. Enfin, je vais pas égrener le chapelet de tout ce qui se passe, mais bon, la France est dans une situation effectivement crépusculaire. Bon, maintenant, le discours, il est beau, il est quand même littéraire, historique, comme le dit un commentateur du Figaro. Mais la question, c'est de savoir si Éric Zemmour va passer de l'esthétique littéraire, de l'esthétique historique à la politique.
Mais ça ne vous fait pas peur ? J'entends votre volonté de garder des ponts entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, cette volonté de réussir à unir votre camp. Mais là, clairement, Éric Zemmour, en quelque sorte, il pose sa candidature aujourd'hui. Il nous dit « je vais aller au bout ». Ça ne vous inquiète pas, cette dispersion des voix ?
Mais bien sûr que ça m'inquiète, cette dispersion des voix, bien sûr. Quel que soit le nombre de votants qui pourraient aller sur un candidat qui représente les idées dont nous avons été les précurseurs, dont Marine Le Pen a été le précurseur. C'est vraiment un affaiblissement, il n'y a aucun doute. C'est la raison pour laquelle je continue à œuvrer pour que l'alternative, ce soit la France. C'est-à-dire que ce soit le rassemblement pour nous faire gagner. Parce que, vous comprenez, on a le droit de nous critiquer, on a le droit de ne pas partager nos idées, c'est normal, c'est la démocratie. Mais nous, nous avons le sentiment que la France, elle a perdu sa souveraineté économique, monétaire, juridique, décisionnelle, et que on devient une province et qu'on voudrait quand même retrouver, reconquérir un espace national. Bon, alors on se bat pour cela et il est clair que toutes les pertes de voix, la déperdition est tout à fait désastreuse, c'est une évidence.
Alors, pour l'instant, vous n'arrivez pas à réconcilier les deux prétendants. Imaginons Gilbert Collard, si on en reste là, avec Éric Zemmour d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, qui soutiendrez-vous ? Est-ce que ce sera Marine Le Pen sans aucun doute, ou est-ce qu'il y a une tentation Zemmour chez vous ?
Ah non, je suis un loyaliste. Alors, qu'est-ce qu'un loyaliste ? Un loyaliste, c'est un homme ou une femme qui soutient son candidat tant qu'on ne lui met pas un coup de pompe dans le cul. Bon, pour parler un langage qu'aurait bien aimé Audiard. Que n'a pas cité Zemmour, et il a eu tort, je crois, de ne pas le citer, parce que c'est aussi la France du cinéma, la France de la parole directe.
Donc pour l'instant, vous votez Marine Le Pen.
Bien sûr, je suis un loyaliste, bien sûr. Mais mon candidat, c'est la France, hein. Voilà. C'est clairement la France. Et moi, je souffre de voir la situation dans laquelle on est. Je pense que Marine Le Pen, dans la situation actuelle, et celle qui peut gagner, bien évidemment.
Robert Ménard, le maire de Béziers, qui, comme vous, souhaite une union Zemmour-Le Pen, estime que Éric Zemmour, aujourd'hui, manque de professionnalisme, qu'il n'est entouré que par des jeunes de 25 ans, dit-il. La politique, c'est quelque chose de sérieux, je le cite encore Robert Ménard. On ne s'improvise pas présidentiable. Vous avez aussi l'impression, quelque part, que la candidature d'Éric Zemmour est peut-être en train de faire pchit après des déplacements agités, la polémique du Bataclan notamment.
Oh, je serais prudent. Je serai prudent parce que l'histoire nous apprend que les événements sont réversibles, que rien n'est gagné, rien n'est acquis. Il faut être très prudent et continuer à considérer la candidature d'Éric Zemmour comme une candidature qu'on ne peut pas négliger. Voilà. Et du reste, quand on voit les réactions d'un peu de toute la classe politique, qui a dû se fatiguer, mon Dieu, pour faire les phrases qu'ils ont sorties, qu'est-ce qu'ils ont dû s'emmerder pour ciseler leurs petites phrases, hein. Le micro de De Gaulle, le discours de Pétain, un pou pour le porte-parole d'Hidalgo, laquelle vient de se faire rappeler à l'ordre du reste par Bercy, hein, pour la gestion de Paris. Quand on voit la bronca de petites phrases qui a été soulevée, on se dit quand même qu'il dérange le personnage.
Merci Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour commenter donc cette candidature désormais officielle d'Éric Zemmour. Malgré cette candidature, on l'a compris, vous continuez de réclamer l'union entre le polémiste, désormais candidat, et Marine Le Pen, votre candidate, puisque vous êtes loyaliste, vous nous l'avez répété. Merci d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une toute petite pause et ensuite RTL Soir continue dans les dessous de l'actu, les dessous de la panthéonisation de Joséphine Baker. C'est en ce moment et c'est le fil rouge de RTL Soir. Et puis ensuite, laissez-vous tenter dernière. SOS Fantôme et les Tuches de retour au cinéma. Oui, ça vous fait rire, Peggy. Vous avez hâte, je vois ça tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Il est quasiment 18h30, bonne fin de journée.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et on vous rappelle les titres de l'actualité. Marion Calais, c'est à vous.
La situation est en train de s'aggraver. Les mots d'Olivier Véran, le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Il fait état d'environ 47 000 contaminations ces dernières 24 heures, mais avec des cas graves et d'hospitalisation limitée. Éric Zemmour, désormais candidat, il l'a confirmé aujourd'hui sur RTL. Il y a un instant, l'eurodéputé du Rassemblement national, Gilbert Collard, a appelé à éviter les insultes et à maintenir les pont et à faciliter le rassemblement. Karim Benzema méritait le podium. Les mots du président de la Fédération française de foot au lendemain du Ballon d'Or qui a vu l'attaquant terminer quatrième, Noël Le Graët, qui regrette une nouvelle fois que l'affaire de la sextape traîne depuis trop longtemps.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps pour demain, Peggy, dites-nous tout.
Moins froid mais sous la pluie. On aura moins de gelée demain matin, c'est déjà pas mal. Et les températures
Vous
seront hausses également.
Vous croyez vraiment qu'on va se consoler comme ça
l'après-midi? On se contente de ce qu'on peut, voyez. Quand il y a une petite amélioration, on la prend. Je vois le verre plein, moi. De 5 à Ambérieu l'après-midi, à 15 à Nice, 8 à Strasbourg, 10 à Paris et Brest, 13 à Bordeaux. Donc demain, de la pluie pour tout le monde, avec une perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ouest en est rapidement, suivi après son passage d'un ciel de traîne, donc entre nuages, éclaircies et averses. Le matin, le sud-est sera épargné, mais les pluies vont arriver dans l'après-midi. Et puis, il va neiger en moyenne montagne à partir de 1200 mètres. Et je rappelle que le Nord-Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange cru.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h31, dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous de la panthéonisation de Joséphine Baker, l'artiste aux mille vies, chanteuse, danseuse, résistante, maman au grand cœur. C'est le fil rouge de RTL Soir, parce que la cérémonie est en cours, c'est en ce moment, vous la suivez pour nous, pour RTL, Sophie Orange, on vous retrouve. Ça y est, Joséphine Baker vient d'entrer au Panthéon.
Et que c'est émouvant, c'est toujours aussi émouvant de voir ces immenses portes qui s'ouvrent. C'est la seule occasion pour laquelle les portes ont le droit de s'ouvrir, sinon on rentre par une petite porte. Joséphine Baker est rentrée par la grande porte au Panthéon. Son cercueil est désormais installé dans la grande nef. Une cérémonie vraiment marquée sous le signe de la musique.
Les deux amours, mon pays est Paris.
Avec, lors de la remontée de la rue Soufflot, un magnifique chant des partisans chanté a cappella.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Un hommage à son rôle de résistance, d'espionne pendant la guerre. On oublie souvent que Joséphine Baker n'était pas seulement une chanteuse.
Autre temps fort de la cérémonie, discours d'Emmanuel Macron avec sans doute un message politique.
Alors forcément, cette date du 30 novembre n'est pas liée à la campagne électorale, mais parce que le 30 novembre, elle s'est mariée en 1937 pour obtenir la nationalité française. Emmanuel Macron, qui va prononcer un discours dans quelques instants, il va forcément rendre hommage à cette femme audacieuse, courageuse, humaniste et antiraciste.
Sophie Orange, qui assiste à la cérémonie alors qu'on entend le chef de l'État prendre la parole derrière vous ?
2000 invités, 1000 dehors, 1000 dedans, notamment Albert de Monaco, mais aussi Lynn Renault, et des enfants qui... travaille dans des écoles qui portent le nom de Joséphine Baker. 13 écoles, collèges, lycées français représentés lors de cette cérémonie au Panthéon.
Sophie Orange, depuis le Panthéon pour RTL, où donc le cénotaphe de Joséphine Baker est entré il y a quelques minutes. On va continuer de suivre cette cérémonie en fil rouge dans l'émission avec vous, Sophie. À tout à l'heure.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
À 18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant, comme chaque soir, les bons conseils, les bonnes idées de la bande de LVT pour occuper vos soirées, vos semaines. On va parler cinéma maintenant avec Stéphane Boutsock. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
Et on va se pencher aujourd'hui sur ces héros du passé qui s'offrent une seconde jeunesse sur grand écran.
Tiens, si je vous dis Chasseur, Fantôme et Bonhomme Chamallow.
Ghostbusters, SOS Fantôme.
Ghostbusters, l'héritage de Jason Reitman. C'est le fils d'Ivan, réalisateur des films des années 80. Eh bien, voici une vraie suite des aventures des traqueurs de spectre. Alors attention, ce sont cette fois des enfants qui mènent le combat contre les forces du mal dans un bled de l'Amérique profonde. Tout est là, l'humour, les fantômes, les effets spéciaux, un petit peu kitsch. Et même, je vous en dis pas trop, mais même un joli clin d'œil au héros des premiers volets. C'est de la nostalgie et ça fait du bien.
Ça rappelle mon enfance.
Exactement. Vous étiez né, vous ?
En tout cas, je les ai vus quand j'étais petit. C'est quoi l'année des Ghostbusters ?
C'est les années 80.
Les années 80. Je suis un enfant des années 80, Stéphane. Voilà. Le retour de Ghostbusters, est-ce que ça marque une vraie tendance pour les mois à venir ?
Bon, alors, il va falloir vous y habituer. Les studios misent sur des valeurs sûres pour remplir les salles. Le 7e volet de Resident Evil, la saga des zombies, est sorti mercredi dernier. Un nouveau Spider-Man est annoncé pour le 15 décembre. Le 22, vous découvrirez Matrix Résurrection.
Génial.
Toujours avec Keanu Reeves. Mais aussi le film d'animation Tous en scène 2. Et puis c'est pas fini, puisque l'an prochain, nous aurons droit à un deuxième Top Gun, aux nouveaux épisodes de Scream, Paranormal Activity, Transformers, L'Âge de Glace, mais aussi les prochains Mission Impossible, Thor, Batman, Les Animaux Fantastiques 3 ou encore Jurassic World 3.
Quand on a un bon filon, on l'utilise jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que les Français s'y mettent aussi ?
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? Le 3, donc en février, Mince alors 2, le 22 décembre avec Charlotte de Turckheim, Du Cobu 3 avec Elie Semoun et lui annoncé au printemps, sans oublier...
Oh. Il est free, il est free.
Les Tuches,
ben oui.
De retour.
Les Tuches 4 d'Olivier Barou avec Jean-Paul Roux, Isabelle Nanty, toute la famille, mais aussi Michel Blanc ou François Berléand. Ça, c'est le très gros film français des fêtes. Ça sort le 8 décembre. Notez que toute l'équipe du film sera en direct avec nous vendredi matin à 9h dans Laissez-vous tenter.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup pour les bons conseils, Stéphane Woodstock.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et on marque une petite pause en RTL Soir. Dans un instant, nous allons défaire le monde avec le trio Cyprien Sini, oui. Céline Landreau. Oui. Non, pas Céline Landreau, elle n'est pas là. Céline Landreau.
Ah, demain, Céline
Landreau. Anaïs Bouissou la remplace avantageusement. Céline n'écoute pas. Et Laurent Tessier. Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, on va se plonger avec vous dans les archives et vous allez entendre quelques déclarations de candidature qui valent le détour. Restez à l'écoute, à tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.